Bonjour, c'est Janice Esto. Retrouvez-moi chaque vendredi à partir de 13h sur Mayuri Campus, dont les experts Mayuri. Un rendez-vous sur les grandes questions de société qui nous, qui vous concernent en Guyane. L'éducation, le pass sanitaire, l'immigration, près d'une heure de débat sans langue de bois, en vidéo sur les réseaux sociaux et en radio sur Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Je compte sur vous. À bientôt. Les informations et réponses aux questions que vous vous posez, comme tous les vendredis, votre rendez-vous, les experts Mayuri, fait la lumière sur l'actualité, sans à peu près ni fake news, et ce, grâce à nos experts hors pair, qui nous diront tout ce que vous, tout ce que nous voulons savoir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir M. Alain Ehoche, président du groupement des restaurateurs de Guyane, et Steve Roldan, secrétaire général du syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques de Guyane. Bonsoir messieurs, merci. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Ma première question, et je tenais vraiment à la poser, déjà, comment tenez-vous le coup, vous et d'ailleurs votre personnel, vos employés, et puis ensuite, pouvez-vous nous donner un état des lieux de la situation avec ce stop and go depuis le début de la crise sanitaire et surtout l'impact qu'il a sur vos entreprises. Alors,
tu commences ?
Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. comment on tient, que ce soit mon établissement comme mes confrères, c'est bien évidemment quelque chose de difficile économiquement, parce que ce qui était vrai pendant les premiers mois, qui nous permettait de survivre, on va dire, pour le début de la crise, devient quand même maintenant relativement compliqué. Et puis, pour les salariés, c'est aussi maintenant compliqué. Compliqué parce que rester sans activité pendant longtemps, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Et que, par ailleurs, il y a aussi le fait que de plus en plus maintenant nos salariés profitent de ces périodes d'activité partielle pour se lancer dans d'autres activités. Et on ne sait même pas si on va pouvoir retrouver tous nos salariés, toutes nos équipes.
D'accord.
Oui, c'est un petit peu la même chose pour le groupement des restaurateurs. On vit ça évidemment avec beaucoup de difficultés. C'est pas tant l'aspect financier qui compte, hein, évidemment, mais on a quand même, depuis le début de la crise, enfin pas au tout début, l'aide qu'on percevait était de 1 500 € par mois et c'était quantité négligeable. Heureusement, ça a vite été rétabli à des sommes plus correctes, qui sont quand même toutefois limites, mais on arrive à s'en sortir. C'est pas l'aspect financier uniquement, c'est... Le moral est atteint, hein, on n'a pas de visibilité sur ce qu'on va devenir et on pensait en avoir un petit peu plus, qu'on sentait qu'on arrivait peut-être vers une fin de crise, ce qui est le cas dans beaucoup de départements mais pas dans le nôtre. On est en plein dedans là et on est inquiet, très inquiet.
Difficulté à voir le bout du tunnel.
Tout à fait, c'est ça. Aucune façon de se projeter et quand on est chef d'entreprise... très souvent, on est amené à diriger plusieurs entreprises, à avoir des projets d'avenir, ce qui n'est pas du tout possible en ce moment. On a quelques collègues qui ont fait des projets, bien sûr, ce n'était pas le moment, ils le regrettent énormément maintenant parce que c'est impossible de faire des projets en ce moment. On n'a aucune visibilité. Comme le disait Steve, c'est très difficile aussi pour nos employés parce qu'eux aussi s'inquiètent. Moi, les coups de fil que j'ai, c'est pas tant quand est-ce qu'on va rouvrir, mais mes employés m'appellent pour me dire quand est-ce qu'on va rouvrir. Et alors là, hier, c'était très sympathique d'ailleurs, c'est est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut refaire un après-midi tous ensemble parce qu'on en a marre de pas se voir. Voilà, on est un peu au bout du rouleau, quoi, honnêtement.
Besoin de maintenir le lien. Je vais vous poser donc cette question qui est le sujet de l'émission. Aujourd'hui, les restaurateurs et détenteurs de licences sont-ils les premières et uniques victimes de la crise sanitaire en Guyane ?
Unique, forcément non. Hein. Beaucoup, malheureusement, de victimes collatérales de cette crise et de la gestion de cette crise.
Aujourd'hui, quand on parle des mesures, on en parle des mesures aujourd'hui.
Bien évidemment, alors il y a les restaurateurs, il ne faut pas oublier les opérateurs touristiques, les salles de sport qui sont, qui en fait subissent les mêmes styles de mesures contraignantes et de fermeture administrative. Donc oui, on fait partie en tout cas de ceux qui payent le plus lourd tribut en termes de mesures qui nous empêchent de travailler, voire peut-être de pouvoir réouvrir le jour où on nous permettra de réouvrir.
Alors on a un espoir, hein, on garde quand même en ligne de mire cette proposition faite par le gouvernement de rouvrir avec utilisation du pass sanitaire.
On va y venir.
J'avais eu de longues négociations avec la préfecture pour leur dire, bah, écoutez, puisqu'il y a ce pass sanitaire, utilisons-le. Après avoir demandé au tout début un report d'un mois parce qu'on ne se sentait pas prêt, le problème du pass sanitaire... c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens vaccinés en Guyane. Enfin, en tous les cas, il n'y en avait pas suffisamment il y a encore un mois et demi ou deux mois. Ça commence à s'améliorer un tout petit peu. Mais on avait la crainte d'ouvrir avec une obligation de passe sanitaire qui nous aurait contraints à perdre une bonne partie de notre clientèle. Donc la première demande faite par le groupement des restaurateurs guyanais, c'était de repousser ce passe sanitaire. Ça a été accepté pour un mois. Et ensuite, on a eu cette fermeture qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas. Enfin, on l'attendait un petit peu, hein, pour être honnête. D'abord pour deux semaines, mais on savait très bien que ça tenait pas la route.
Ça allait
durer. Non, on peut pas régler une crise comme celle-là en deux semaines. On avait senti l'ampleur qu'elle prenait. C'est une vague importante. Et on n'avait pas vraiment de raison ici en Guyane de ne pas la subir, peut-être différemment qu'en Martinique et qu'en Guadeloupe, mais on savait qu'on allait la subir forcément. Donc j'avais vite demandé au préfet d'utiliser le pass sanitaire, c'est-à-dire ceux qui veulent, parce qu'il y a des établissements qui ne veulent pas rouvrir avec pass sanitaire, qui sont contre le pass sanitaire, c'est leur choix, et il y en a qui sont pour. Donc j'avais demandé au préfet de pouvoir utiliser le pass sanitaire pour pouvoir rouvrir malgré un taux d'incidence un petit peu trop élevé. C'était, sous le coude et quasiment accepté. Sauf que le temps que ça se mette en place, le préfet a demandé à ce que les établissements qui voulaient rouvrir et qui s'engageaient à utiliser le pass sanitaire devaient remplir une demande formelle en s'engageant à bien respecter les règles du pass sanitaire, plus d'autres règles d'hygiène qu'on connaît déjà depuis longtemps tous. Et puis, quand j'ai transmis, moi j'ai eu sur 50 adhérents au groupement 42 demandes d'ouverture avec passe sanitaire. Et j'ai transmis le dossier à la préfecture parce qu'ils voulaient préférer que ce soit transmis par nos instances plutôt qu'une par une. Et quelques jours avant de transmettre le dossier des 42 demandes, j'ai senti que c'était en train de remonter. Et j'ai compris avant. Quelquefois, vous savez, les gens ont l'air surpris des annonces qui sont faites par la préfecture ou le gouvernement. Quelquefois, il suffit de regarder les chiffres et on comprend, on sait où on va. Hein. On commence à avoir l'habitude après.
Oui, effectivement, on sentait l'explosion des cas avec le variant Delta sur le territoire.
Voilà, et c'est pour ça que quelques jours avant que le préfet donne son feu vert pour les restaurants qui voulaient ouvrir avec le pass sanitaire, là, c'est là où on est monté en flèche. Et le préfet a dit, bon, désolé, là, mais c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Voilà où on en est.
Un internaute rétorque, effectivement, il est d'accord avec vous, hein, que les restaurateurs ne sont pas les seuls. Effectivement, on a parlé des salles de sport, on a parlé des opérateurs touristiques, mais plutôt que c'est une question du bénéfice des aides qui permettraient, contrairement à d'autres, de pallier la difficulté, effectivement, de la fermeture. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ces aides dont on parle tant, qui sont brandies à chaque fois, je ne parle pas forcément des autorités locales, mais plus des autorités nationales, sont vraiment, je ne vais pas dire la panacée, mais sont la solution? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'elles vous permettent vraiment de survivre quand on sait que, justement, il y a des entreprises qui ferment? On voyait sur les réseaux la dernière fois, et même sur les médias, les autres médias, un de vos confrères qui a dû fermer et qui a parlé de sa situation personnelle qui était particulièrement tragique. On peut utiliser ce terme, je pense qu'il n'est pas trop fort.
C'est ça. En fait, si vous voulez, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le thème des mesures sanitaires, des aides, il faut toujours nuancer. Bien évidemment, il y a un certain nombre de nos confrères pour qui les aides leur permettent de survivre, même parfois de vivre et de pouvoir espérer réouvrir dans de bonnes conditions financières. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a une grande disparité pour plein de raisons. Peut-être parce que c'est suivant la date de création de l'entreprise, la taille, est-ce que elle a des dettes fiscales et sociales. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui fait que quasiment chaque cas est particulier. Et puis aussi souvent ce que l'on oublie de dire, et parfois ce que ne mesure pas totalement l'administration, c'est que ce soit du côté de l'activité partielle, que ce soit du côté du fonds de solidarité, dès qu'il y a un petit grain de sable dans le système, qu'il faut juste régler une question, ou parfois même simplement pour des contrôles, pour savoir si effectivement on a bien le droit aux aides qu'on a demandées et reçues, eh bien tout est suspendu, ça met un temps infini, parfois plusieurs mois, et donc tous ceux qui n'ont pas de trésorerie suffisante, eh bien, se retrouvent à survivre, oui, mais parce qu'ils arrêtent de payer leur loyer, parce qu'ils arrêtent de payer leur dette sociale, parce qu'ils arrêtent de payer tout un tas de leurs fournisseurs. Et donc, alors oui, la société n'est pas liquidée, mais dans une telle situation financière que le jour où elle va pouvoir réouvrir, on ne sait même pas si elle aura les moyens de pouvoir relancer la machine, parce qu'il va falloir racheter des stocks, il va falloir à nouveau bien... faire des investissements, parce que quand on remet les matériels, les différents matériels en route, un certain nombre tombent en panne, parce que le climat ici est compliqué, est difficile, est rude. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui font que, merci, hein, on a toujours dit, et Alain aussi, hein, avec son groupement, on a toujours remercié l'État pour ce qu'il a fait, pour nous aider à survivre. Maintenant, il faut avoir conscience que ce n'est pas la panacée, et que chaque mois qui passe, eh bien, complique les choses pour chaque fois un peu plus de nos confrères.
Alors, je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est pas l'expérience que j'ai, moi, des adhérents. On a eu des adhérents qui étaient en difficulté pour recevoir cette fameuse aide Covid. On a toujours solutionné le problème. Très sincèrement, la majorité des gens, quand tout va bien, attention, il y a aussi des gens qui ont des profils, comme disait Steve, compliqués. Quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais payé d'impôts, et qui ne comprend pas comment il faut faire la demande. Il demande son numéro de compte impôt, il dit ben, « j'en ai pas ». Tu sais que c'est arrivé. C'est... Alors il y a des situations comme ça un peu compliquées. Ça, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, j'en ai rencontré et personnellement et au titre de certains adhérents, on a appelé la direction des services financiers qui a réglé le problème dans la journée ou le lendemain. En général, et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, les retombées que j'ai moi, c'est que les demandes faites par l'ensemble des gens, une demande de subvention, d'aide Covid faite régulièrement, c'est-à-dire avec tous les éléments d'information qu'il faut, sans tromper, parce que c'est très compliqué à faire. Il faut cocher telle case, et quelquefois on se trompe et on n'a le droit à rien. Si on reprend depuis le début et qu'on le fait bien, tout à coup, on a le droit. Et
oui,
si
ça a été dénoncé. Ça a été relevé, la complexité des démarches.
C'est très complexe à faire. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à le faire. Mon groupement, mais je sais que tu l'as fait toi aussi, on a pu aider des gens, dire, bon, venez, on va le faire ensemble, et ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, on appelle les services, on leur dit, voilà, il y a un problème sur tel dossier, ils regardent, et la plupart du temps, le problème est réglé. En tous les cas, la moyenne de mise en paiement de l'aide est de 3 jours. C'est-à-dire que du jour où on fait la demande, très souvent, moi personnellement et d'autres adhérents, ont reçu le lendemain le petit message de la DRFIP pour dire ben voilà, si votre demande est acceptée, et le surlendemain, l'argent est sur le compte. Donc je trouve que ça, il faut remettre les pendules à l'heure et remercier les services des finances publiques qui, je pense, font bien leur travail. Il y a aussi, pour ce que tu as mentionné, ces gens qui sont en retard de paiement d'impôts. Je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais payé d'impôts, parce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits. Alors là, à un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais il y a des gens qui ont un retard de paiement d'impôts. Et là, pareil, j'ai eu le cas de figure d'adhérents. Ça s'est réglé avec la DRFIP qui a fait un moratoire, qui a dit, ben voilà, vous nous devez 3 000 euros. Vous allez nous donner 100 euros par mois jusqu'à telle date, etc. Et puis on classe le... On épure votre dossier et vous êtes éligible à l'aide. Donc la DRFIP fait pas mal son travail. Ceux qui sont plus long pour le paiement, c'est pour le chômage partiel. D'accord. Ça, c'est plus long, c'est plus surveillé, mais c'est vrai, c'est bien parce qu'il y a aussi des fraudes. Et il faut faire attention, hein, on parle de millions, hein. C'est quand même des sommes très très importantes. Donc, c'est normal que ces sommes, c'est nous qui les payons, hein, y compris vous, enfin tout le monde.
Le contribuable.
C'est normal qu'il y ait des contrôles, ça, moi, ça me dérange pas. C'est vrai que la mise en paiement est longue et que pour une entreprise qui est en souffrance, faire l'avance des salaires à nos employés quand on est ric-rac et quand on est remboursé un mois après, parce que c'est souvent ça, c'est un mois le délai pour recevoir les aides, ça c'est un problème. Il y a un autre problème que je voudrais soulever au niveau des aides qu'on reçoit, qui à mon avis sont d'un niveau respectable, sauf pour justement le chômage partiel. Il y a une grosse oubli de fait, c'est que nos employés, quand ils sont au chômage partiel, sont payés, mais pas les 2,5 jours de congé mensuel. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu bizarre de cumuler des points, enfin des jours de congé quand on ne travaille pas, quand on est non pas en vacances, mais en chômage partiel. Enfin, on est quand même à la maison, on n'a pas la fatigabilité qu'on aurait si on était au travail. Et je ne trouve pas que ça justifie 2,5 jours de congé. À ce moment, je pense que l'État devrait aussi revoir un petit peu sa copie sur ce point-là en particulier. Pour le reste, moi, il me semble que tout est assez convenable, que les aides qui sont apportées sont d'un bon niveau, sauf pour les entreprises fraîchement créées. Et ça, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y en a dans ce cas-là, et que je pense qu'il y a peut-être eu un oubli au niveau du gouvernement pour ces entreprises-là. Enfin, je pense que ça a été rectifié, hein, d'ailleurs, je n'ai pas les détails, mais que depuis quelques mois...
En tout cas, l'expérience que j'ai, hein, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'adhérents, même au-delà de ça, parce qu'il y a aussi le collectif que j'ai créé, et pour l'instant, l'expérience qu'on a, c'est que c'est souvent compliqué. On a, même d'ailleurs pour l'activité partielle, hein, moi, je peux en témoigner, parce que c'est même arrivé pour moi, j'ai eu un contrôle qui a duré quand même quasiment 3 mois, pendant lesquels les aides sont suspendues, le temps de voir si tout va bien. On me dit que tout va bien, aujourd'hui j'attends toujours qu'on me valide la possibilité d'être remboursé des salaires de juin, où nous étions totalement fermés. Donc vous imaginez, si je n'avais pas la trésorerie, je fais quoi? Je ne paye pas mes salariés? Alors qu'en plus, ils n'ont pas travaillé pour moi et que je n'ai pas généré de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai qu'on a eu le fonds de solidarité, mais vous voyez, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est qu'effectivement, quand ça fonctionne, comme l'a dit Alain, ça, on est tous d'accord, quand ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a souvent des raisons qui sont différentes pour plein de cas différents, que ce soit des petits, des grands établissements, que ce soit des nouveaux ou des plus anciens. Des gens qui ont eu à une époque peut-être des difficultés qui ont fait qu'ils n'ont pas été totalement à jour. Donc ça, c'est effectivement, c'est dur. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, maintenant, on continue, comme ça a été le cas au début de la crise, Alain l'a rappelé, hein, on avait simplement 1500 euros les premiers mois quand on était fermé. Une fois que ça a été la métropole qui a eu une fermeture longue, là, d'un seul coup, il y a eu les 10 000 euros qui sont arrivés. Donc on a bien fait un effort quand c'était la métropole qui était fermée. Aujourd'hui, la métropole est réouverte et donc... Et c'est les dom-toms qui sont fermés, et l'État choisit de continuer à calquer la baisse des aides des dom-toms en même temps que la métropole, ce qui nous paraît injuste.
Donc en fait, vous voudriez une adaptation même au niveau des aides qui sont distribuées.
Actuellement, l'aide qu'on reçoit en Guyane, alors je ne sais pas pour la Martinique et la Guadeloupe, en ce qui concerne la Guyane, ce qui est le point qui me concerne moi, l'aide est spécifique pour la Guyane, dans tous les cas.
Elle est spécifique, mais elle n'est plus calquée du tout à la hauteur de ce qui existait pour la métropole.
Elle est pour l'instant de 20%, et on parle de la passer à 40% de la perte. C'est pas mal, hein. Au contraire, ça va en augmentant. On passe de 20% à 40%. C'est-à-dire que c'est les chiffres qui sont donnés et qui sont... ne peuvent pas... donner ces chiffres-là.
Je vous laisserai me dire quelles sont les orientations et qu'est-ce que vous attendez en ce qui concerne ces mesures gouvernementales, justement, que ce soit en termes d'aide ou que ce soit en termes de mesures et d'applications pour vous permettre d'exercer. Mais avant ça, justement, j'aimerais que vous nous vous nous aiguillez sur le pass sanitaire, sur l'application du pass sanitaire. Vous en avez parlé, vous avez abordé le sujet. J'aimerais qu'on approfondisse dessus. Vous l'avez évoqué, il y avait des désaccords, je pense que ce n'est plus trop le cas, entre certains d'entre vous dans la profession, certains collègues.
C'est toujours le cas.
Alors pourquoi pensez-vous, parce que vous avez des retours, hein, pourquoi pour ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas la solution? Pourquoi ce n'est pas applicable en Guyane? Aujourd'hui, sachant que nous sommes à peu près à 31%, si je ne me trompe pas, hein, on a passé la barre des 31%, est-ce que ça l'est un peu plus? Qu'est-ce qu'il leur faudrait, selon leur retour, pour que ce soit plus facilement applicable? On a entendu parler du personnel qu'il faudrait embaucher en plus pour faire les contrôles. On a entendu parler de pas mal de choses, notamment.
Si je peux me permettre de dire une chose. Je reviens de métropole. J'étais dans l'Hexagone la semaine dernière, et puis en Bretagne. Alors bien sûr, hein, 80% de vaccinés, ça change la donne. Hein. Le pass sanitaire fonctionne
très bien.
Étonnamment bien, j'étais surpris. Il n'y a pas de besoin d'employés en plus, c'est ce que je craignais. Il n'y a pas besoin. Il y a toujours dans un restaurant quelqu'un qui accueille, qui fait l'accueil. Ça prend quelques secondes, ils ont leur téléphone en main. Ils n'ont pas à demander aux gens de le montrer. Les gens se présentent avec ça à la main. Déjà, ils ont pris l'habitude. Scan, oui, voilà, pof, et puis asseyez-vous. Enfin, ça se passe très très bien. Bien sûr, ça se passe bien et les restaurants sont remplis parce qu'il y a beaucoup de vaccinés là-bas. Ici, la crainte qu'on avait, c'était que comme il y avait moins de vaccinés, d'où ma demande à la préfecture de repousser le pass sanitaire d'au moins un mois, maintenant ça fait 2 mois, on a atteint 30%, plus de 30%, 31% de vaccinés. Il faut faire attention de ne pas compter en pourcentage. D'une part, c'est pas toujours facile à comprendre. Moi, je préfère les nombres. On a actuellement 80 000 vaccinés en Guyane, 2 doses. 10 000 vaccinés une dose, qui vont avoir la deuxième dose quand on a fait... donc, on est à 90 000 vaccinés dans quelques semaines. On a aussi environ 10 000 personnes qui sont susceptibles de bénéficier du pass sanitaire parce qu'ils ont eu la COVID moins de 6 mois. On est à 90-100 000 personnes, enfin, on va dire clients potentiels. Je parle des restaurants. Hein. Il faut savoir que, notamment dans la clientèle de restaurants, en tous les cas, dans l'enquête que j'ai fait autour de moi dans mes clients, quasiment tout le monde est vacciné. Mais en tous les cas, si on parle d'environ 40-42 restaurants qui vont avoir à se partager une clientèle de 100 000 personnes, c'est plus que ce qu'on fait tous les soirs, hein, vous savez. Si on compte que les gens ne viennent qu'une fois par mois au restaurant, ça va nous faire une activité quasiment normale. Donc maintenant, oui, maintenant je pense que les restaurants, alors encore une fois, c'est valable pour les restaurants, je sais que pour les bars c'est peut-être différent parce que c'est pas la même clientèle, ils sont peut-être moins plus jeunes, moins vaccinés, je sais pas. Mais en tous les cas, pour les restaurants, je ne vois pas personnellement, et mes adhérents non plus, aucun empêchement à appliquer le pass sanitaire. Et là-dessus, je voudrais faire une petite précision parce qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui passent et c'est bien de remettre quelquefois les pendules à l'heure. Il y a quelque temps, une dame qui m'a dit « Ah, ben, si vous rouvrez, ce que j'annonçais, en disant, ben, j'espère qu'on va rouvrir avec le pass sanitaire. Ah, si vous ouvrez avec le pass sanitaire, on ne viendra pas, on va vous boycotter. » Alors, je lui dis non. Parce que les gens parlent de boycotter les restaurants, y compris les cinémas. J'ai vu des trucs que je trouvais horribles. Des gens qui disaient « Ah ouais, ben, tel cinéma veut installer le pass sanitaire, et ben on va regarder Netflix, etc. » Enfin, je trouve pas ça cool de faire ça à des gens qui sont en souffrance, à des commerçants qui sont en souffrance depuis longtemps. Et puis surtout que c'est ne pas savoir ce que ça veut dire boycotter. Boycotter, c'est quand vous ne voulez pas acheter un produit que vous pouvez acheter. Là, en l'occurrence, les gens qui ne veulent pas aller au restaurant, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. S'ils sont pas vaccinés, de toute manière, ils peuvent pas boycotter un endroit où ils n'ont pas le droit d'entrer. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Donc, il faut remettre un peu les pendules à l'heure et dire aux gens, attention à votre réaction. Si vous avez fait le choix de pas vous vacciner, c'est votre problème, mais assumez-le. N'essayez pas de perturber le commerce et l'activité et la vie, parce que vous avez parlé d'un restaurateur tout à l'heure qui est en grande difficulté. Vous savez, il y a des gens qui démarrent des dépressions quand ils sont sans travail, sans argent, parce que c'est lié, même si on a des aides, on l'a bien vu, les aides qu'on obtient nous permettent juste de tenir le coup, d'éviter de fermer nos établissements. Pour certains, il y en a qui sont obligés de fermer, qui n'ont du coup plus rien. Donc non, on parle de choses sérieuses là, il ne faut pas rigoler. Et ceux qui ne veulent pas aller au restaurant parce qu'il faut un pass sanitaire, c'est plutôt ceux qui ne peuvent pas. Il faut qu'ils respectent notre choix et
le choix des autres.
Le choix des autres. Et nous, nous respecterons le leur, de toute manière, ils ne peuvent pas. Donc on ne peut pas leur imposer de venir chez nous.
Alors pour nous, c'est en tout cas une question qui est régulièrement à l'ordre du jour, hein, depuis qu'on en parle pour sa mise en place en Guyane. On a encore eu une réunion, là pour le coup, étendue au collectif et pas simplement au syndicat, c'était ce mardi. Et ce qu'on essaye toujours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on met beaucoup de nuances. Non pas que nous sommes, en tout cas si une partie effectivement des restaurateurs ne souhaite pas mettre en place, pour des raisons philosophiques, le pass sanitaire. Aujourd'hui, même ceux qui souhaitent le mettre en place veulent que ça se fasse dans des conditions à minima comme celles dont ont pu bénéficier la métropole. D'ailleurs, le ministre des Outre-mer nous a donné raison, puisque lorsqu'il a parlé de mettre en place le pass sanitaire en Guyane, il a demandé de faire des propositions d'adaptation, compte tenu effectivement du faible taux de vaccination. Donc ce que nous avons fait, malgré tout, ces propositions n'ont pas été entendues, on n'a même pas eu de réponse pour savoir si c'était une bonne ou mauvaise idée, si c'était une bonne ou mauvaise idée, pourquoi ça l'était. Donc ça, on a trouvé ça déjà un petit peu dommage. Et effectivement, on n'est pas forcément opposé à, en tout cas, ce que certains puissent ouvrir avec un pass sanitaire, mais vous imaginez bien qu'il va falloir le faire avec un aménagement. S'il y a un faible taux de vaccination, est-ce qu'il y aura une compensation avec, on va dire, un fonds de solidarité réduit, le temps que peut-être le nombre de personnes qui prennent l'habitude de venir dans un restaurant, dans un bar avec un pass sanitaire se fasse? Est-ce que effectivement on aura la garantie, comme c'est le cas en métropole, que malgré, moi j'avais regardé, hein, en métropole, le pass sanitaire a été mis en place, par exemple, dans l'Hérault, avec un taux d'incidence de 607, en Corse du Sud, une île, 615, 689 dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui fait qu'en Guyane, à 500, nous, par contre, ça n'est plus possible?
Je vais y venir, vous inquiétez pas.
Et puis, évidemment, il faut ne pas oublier le fait qu'en Guyane, jusqu'à aujourd'hui, on nous impose des couvre-feux qui n'existent plus, ou lorsqu'ils existent. Pareil, j'avais repris, c'était en Haute-Corse de mémoire, à partir de 600 taux d'incidence, on a mis un couvre-feu à 1h du matin. Donc qu'est-ce qui fait qu'à circonstances identiques dans certains départements de métropole, on ne gère pas la crise de la même façon? En tout cas, les mesures sanitaires qu'on impose à nos métiers ne sont pas les mêmes. Il y a probablement des réponses.
Je vous laisserai répondre.
Ce que je trouve dommage, et même si Alain me donne une réponse, pourquoi les autorités ne nous l'expliquent pas? Ça serait quand même le minimum à faire.
Je voulais juste répondre, juste une question qui nous a été posée par Guylaine Bad. Est-ce que votre... Donc, alors vous dites, pour résumer, ouverture avec le pass sanitaire, oui, mais avec des adaptations en local et une compensation pour le début, donc pour le démarrage.
Ça en fait une des pistes, mais il y a en tout cas...
Alors, une piste avec quelques pistes d'adaptation, dont pourquoi pas un fonds compensatoire, pardon, pour le démarrage, pour aider au démarrage. Donc j'ai juste une question pour vous, monsieur Eoch, et je vous laisserai répondre. Donc Guylaine Bad qui nous demande, est-ce que l'estimation que vous avez faite par votre enquête avec aussi vos adhérents, sur les 100 000 clients potentiels pour l'ouverture avec le pass sanitaire, hein, est-ce que cette estimation couvre les 6 mois à venir également? Ou quelle est-elle sur les 6 mois à venir?
Ah ben, elle va forcément augmenter.
Oui, forcément.
Forcément augmenter. C'est jouable dès aujourd'hui et ça va augmenter. La vaccination ne va pas aller en diminuant. Même si elle se ralentit, elle va légèrement augmenter. Non, moi, ce que je voulais dire, pour reprendre un petit peu... Alors, les raisons, pourquoi le gouvernement ne nous dit pas ceci et cela. Le gouvernement, puisque tu as pu aller chercher des chiffres dont tu as parlé, tu n'as pas bien vu tous les chiffres. Tu parles de départements qui ouvrent avec le pass sanitaire à 600 de taux d'incidence. Oui, mais avec combien de vaccinés? Il ne faut pas oublier que la non-vaccination aide ou participe énormément à la dangerosité de la circulation du virus.
Donc ils sont plus vaccinés que nous, mais ils ont un taux d'incidence supérieur à nous. Là, il y a quelque chose qui m'échappe.
Non. Non.
Si, tu es en train de me dire que on peut mourir avec un taux d'incidence de 689.
Le taux d'incidence, c'est quoi? C'est calculé comment?
Oui, c'est un taux glissant sur 7 jours.
Bah voilà, donc on peut être vacciné, mais entre le nombre de vaccinations et le taux d'incidence qui est glissant sur 7 jours, qui ne donne une lecture que sur 7 jours, ça n'indique pas que... Ça indique au contraire, plus on est vacciné, que ce taux va descendre. Or, nous, en Guyane, on a un manque de...
En train de me dire qu'on les a laissés ouvrir avec le pass sanitaire à 689 de taux d'incidence parce qu'ils étaient beaucoup plus vaccinés. Mais logiquement, s'ils sont beaucoup plus vaccinés, ils n'auraient pas dû avoir un taux d'incidence aussi important.
Non, mais la vaccination, elle n'est pas un instant T. Elle est sur des semaines et des mois. Donc, je pense sincèrement que si le gouvernement sait que la vaccination fonctionne bien et que donc le taux va diminuer, mais ils sont peut-être plus enclins à laisser les ouvertures.
La seule raison que je peux éventuellement entendre, c'est qu'effectivement, ce sont les hôpitaux qui sont moins débordés.
C'est exactement ce que la même internaute répond.
Il y a ça. Donc
en fait, c'est une question de capacité de soins des territoires, donc peut-être qu'en ce qui concerne la Haute-Corse,
évidemment,
ils savent qu'ils peuvent absorber le nombre de malades, c'est peut-être la raison.
C'est pas tant le taux de vaccination que les capacités de l'hôpital.
Voilà.
Il faut savoir que la Guyane, c'est le deuxième désert médical de France, après Mayotte.
Je pense que le taux de vaccination est extrêmement important, d'ailleurs on n'arrête pas de nous le dire, ça me paraît assez évident quand même dans ce débat. Je voulais préciser sur... vous parlez d'une éventuelle compensation. Je ne sais pas si tu n'as peut-être pas eu les remontées. Moi, je suis en communication assez fréquente avec aussi bien les services de la préfecture que le ministère. J'ai eu une réponse à cette question que j'ai posée et je pense que tout le monde l'a eu. Je suis surpris que tu ne l'aies pas eu. Le ministre... ne veut pas mettre en place, c'est un courrier que je lui avais fait personnellement et que je demandais une aide spéciale, spécifique pour le département d'outre-mer, notamment pour nous en Guyane, à cause du faible taux de vaccination, d'avoir une aide. Et bien sûr, ça n'est pas possible parce que ça va contre le but du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est pour inciter les gens à se vacciner pour être plus tranquille, pour pouvoir se préserver de la maladie. Si on donne des compensations financières aux commerçants qui vont vouloir ouvrir avec ce pass sanitaire et que ça influence les gens à ne pas se vacciner, c'est pas le but du gouvernement, faut pas être naïf, ça, on l'a compris, ça c'est pas possible. Par contre, dans cette même réponse que m'a fait le ministère, il était question, enfin il est écrit noir sur blanc, que les aides auxquelles nous allons avoir droit resteront les mêmes tant qu'on sera sous l'état d'urgence. L'état d'urgence est repoussé. Pour nous, il est repoussé encore, il va probablement être repoussé jusqu'à milieu de l'année prochaine. Donc on n'a pas vraiment d'inquiétude à se faire, en tous les cas au jour.
Donc on ne s'inquiète pas pour le 15 novembre.
Comment ?
On ne s'inquiète pas pour le 15 novembre.
Non.
Il sera repoussé.
Oui. Donc je trouve qu'aujourd'hui, bon, j'entendais tout à l'heure, je faisais allusion à des restaurateurs qui ne veulent pas ouvrir pour des raisons philosophiques. Non, là, je trouve que c'est fort quand même, quoi. On n'est pas sur la philosophie, là. On est sur des
mots morts. Ne pas ouvrir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ne pas ouvrir, mais ne pas appliquer le pass sanitaire.
Alors, s'ils veulent pas ouvrir,
parce qu'ils estiment qu'effectivement, et ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire, à un point que je trouve quand même assez... qui prouve à une nouvelle fois que nous sommes malheureusement un peu trop instrumentalisés pour servir cet objectif de vaccination, alors que ce n'est pas notre rôle. Le Conseil d'État a donné l'autorisation au gouvernement français de mettre en place le pass sanitaire. Alors, je lis textuellement ce qu'a dit le Conseil d'État. Il doit être justifié, donc ce pass sanitaire, par l'intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l'épidémie et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner. Et on comprend bien pourquoi, parce que sinon ça veut dire qu'on est pris en otage avec ce pass sanitaire, non pas pour un objectif de limiter la propagation du virus, mais bien pour obliger les gens à se faire vacciner.
Ça veut dire la même chose. Limiter la propagation,
non, parce qu'à ce moment-là,
c'est favoriser la vaccination.
Si l'objectif de l'État est de se faire vacciner, ce n'est pas au restaurant d'être utilisé par le gouvernement pour pousser les gens à se faire vacciner. Que le gouvernement prenne son courage à deux mains et décide que le vaccin est obligatoire. Ça, c'est une mesure courageuse. Si le gouvernement pense que c'est la seule solution, qu'il ait le courage de l'imposer et non pas de se décharger sur des gens qui ne veulent que travailler. C'est là où c'est quand même... voilà, il faut remettre l'église au centre du village et que chacun porte ses responsabilités.
Des rumeurs ont circulé qu'il y a eu des pressions qui ont été portées, appuyées sur les restaurateurs pour que eux soient les porte-drapeaux de la vaccination, même qu'ils se fassent vacciner pour pouvoir ouvrir leurs établissements. Est-ce que vous pouvez nous répondre à ce sujet ?
J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai été moi-même un porte-parole de la vaccination parce que je suis convaincu de ses bienfaits depuis le début. On m'a jamais demandé de le faire, personne.
Bah là encore, moi, je vais apporter une nuance en étant l'esprit d'autant plus tranquille qu'un certain nombre de restaurateurs, de confrères sont vaccinés. Et pour autant, ces confrères qui sont vaccinés sont les premiers à ne pas avoir voulu rentrer dans ce rôle qui n'est pas le nôtre, que de, entre guillemets, hein, excusez-moi l'expression, mais de vendre du vaccin. Nous, notre métier, c'est de vendre du plaisir gustatif, un moment de détente le soir, un cocktail, mais pas de vendre la vaccination.
Et tu vends du plaisir gustatif en ce moment ?
Non, mais chacun. Ça, c'est la responsabilité de l'ARS et c'est la responsabilité du gouvernement français. C'est pas celle de... Et demain, on va me demander quoi alors ? On va me demander aussi d'aller soigner les gens.
C'est toujours la faute des autres.
Non, c'est pas une question.
Je suis pas d'accord avec ça, moi. Je trouve qu'il faut assumer nos responsabilités.
Mais le gouvernement n'assume pas. Pourquoi nous, on devrait assumer ce que le gouvernement n'assume pas ? C'est quand même extraordinaire.
Non, c'est quand même extraordinaire. Je trouve ça, au contraire, tout à fait. C'est un acte citoyen.
On y vient à vos souhaits en termes d'orientation et de mesures. Le préfet a fait des annonces, justement, il y a une heure, hein, très exactement une heure. Et justement, est-ce que vous êtes rassuré concernant l'application de ce pass sanitaire, puisqu'il a annoncé que, étant donné que les chiffres sont à la baisse et que c'est une excellente nouvelle, d'ailleurs autant pour nous que pour vous, l'application du pass sanitaire pourrait donc se faire sûrement d'ici la semaine prochaine si la tendance se confirme. Avec une ouverture, donc il a parlé d'une ouverture, donc pas seulement pour les restaurants, hein, d'une ouverture et peut-être d'un retour à une vie quasi normale avec le pass sanitaire.
Bah, rassurez, nous, tant qu'on n'a pas les détails, comme je disais tout à l'heure, hein, du contexte.
Mais sur l'annonce, déjà.
Sur l'annonce, oui, bien sûr, bah, on ne peut que se réjouir d'avoir enfin voir une petite lumière au bout
lueur
du tunnel.
C'est la lumière du tunnel dont on parlait.
Bien évidemment. Hein, je ne vais pas faire le réfractaire bête et méchant. Voilà, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est deux choses. On est enfin des autorités qui acceptent de vraiment discuter, de s'asseoir autour d'une table avec les différents intervenants. Il n'y a pas que nous, hein, on l'a dit, hein, il y a les salles de sport, il y a les opérateurs touristiques, il y a les hôteliers. Donc il n'y a pas que nos deux syndicats et groupements. Hein. Il y en a d'autres. Et il est extrêmement important que les autorités comprennent à un moment donné que nous sommes sur le terrain et que nous avons une vision beaucoup plus large de la réalité. Il faut bien comprendre que, je reviens là-dessus, hein, parce que j'ai eu parfois certains confrères qui ne voient la gestion de la crise sanitaire que par le petit bout de leur expérience et de le prisme de leur établissement. Mais chaque établissement est différent. Moi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps, plusieurs fois, je fais les établissements jusqu'à Saint-Laurent pour justement comprendre quels sont, en fonction du territoire, de la ville, de la taille, du type d'activité. Vous imaginez bien qu'un restaurant asiatique, un restaurant plutôt classe ou un restaurant comme les Mille Pattes ne va pas réouvrir dans le même contexte pour plein de raisons. Et notamment aussi la clientèle à laquelle il s'adresse. Ou comme le disait Alain, entre un restaurant et un bar, et un restaurant d'hôtel, c'est pareil. Imaginez bien que ce n'est pas du tout la même réalité. Ce n'est pas du tout les mêmes défis, ce n'est pas du tout la même gestion. Alain l'a suffisamment répété, hein, un restaurant, c'est un restaurant. Hein, c'est la raison pour laquelle il a toujours revendiqué le fait de ne pas vouloir se mélanger aux autres professions. C'est un choix. Nous, ça n'a pas été le nôtre. Mais après, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, parce que il faut réussir à trouver un consensus qui permette au maximum de gens de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on se concentre que sur une profession ou sur un type d'établissement, et ce serait vraiment dommage. Hein, que ce soit pour les aides, que ce soit pour le pass sanitaire, que ce soit pour les différentes mesures qui sont prises par les autorités. Donc on attend vraiment ça. C'est notre demande. Prendre des mesures, c'est bien, mais il serait temps de travailler et de travailler sérieusement, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est quand même, je trouve, dommage qu'on soit dans une région, la Guyane, qui soit quand même relativement, non pas restreinte en termes de taille, mais en tout cas en termes de population et de fonctionnaires d'État, et qu'on n'arrive pas à trouver des moments où à chaque fois, c'est quand on arrive au clash qu'on arrive éventuellement un petit peu à se faire écouter, et encore.
Monsieur Hoche.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, enfin, ce n'est pas du tout ma méthode.
On a compris.
Je n'aime pas les clashs, moi j'aime discuter. Enfin,
non plus, on n'aime pas les clashs. On ne rentre pas en clash parce qu'on aime les clashs.
J'ai obtenu beaucoup de choses des pouvoirs publics en discutant, en leur montrant le bon côté des choses, en leur expliquant notre bonne volonté. Je repense à notamment l'ouverture pour les restaurants décalés qu'on a obtenu pour jusqu'à 23 heures au mois de décembre l'année dernière. C'était une grande première, jamais aucun département ne l'avait obtenu et ne l'a obtenu depuis. C'était à force de discussion avec le préfet et de lui faire comprendre qu'on pouvait faire attention, qu'on pouvait gérer très bien.
Les clashs, tu as connu ça pourtant au début de la crise.
Ben, j'ai connu tant que je n'étais pas entendu, à partir du moment où j'étais entendu. Oui, mais bon, moi, si on veut passer son temps à clasher, on n'avance pas non plus. Je pense que
nous, on n'a pas été entendus.
Là, on a une situation qui devient stable pour nous. Au tout début de la crise, quand j'ai monté le groupement des restaurateurs, je voulais faire comprendre au pouvoir public que les restaurateurs, et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, je ne voulais pas d'adhérents qui soient dans les bars, les discothèques, les hôtels. Je ne connais pas ce métier-là. Ce n'est pas mon métier. Je ne peux pas dire ce qui me semble bien ou pas bien. Je voulais que les restaurateurs se fassent entendre et obtiennent, sinon une réouverture, des aides financières à la hauteur de ce qu'il fallait. Je l'ai obtenu. À part ça, moi, je n'ai rien d'autre à demander. Après, on nous parle de la vaccination. Quand j'ai entendu parler de la vaccination, j'ai été, comme tout le monde, très soucieux de savoir ce que c'était. J'ai pris des renseignements, pas sur Facebook, et j'ai compris que c'était mon intérêt de le faire. J'ai demandé à des médecins, à mon frère qui est médecin, qui évidemment ne va pas me conseiller un truc qu'il ne faut pas faire, à d'autres personnes, et j'ai compris qu'il fallait le faire. Je l'ai fait. Après, on nous parle de passe sanitaire. Mais si on est vacciné, et j'entends des restaurateurs, ils disent « Moi, je suis pour le vaccin, je suis vacciné, mais je suis contre le passe sanitaire. » Si on est vacciné, on n'a pas de problème à le montrer qu'on est vacciné. Le pass sanitaire, c'est juste montrer qu'on est vacciné. Si on est vacciné, où est le problème de montrer qu'on est vacciné? Je ne comprends pas cette polémique.
En tout cas, pour l'annonce de la réouverture avec le pass sanitaire, vous êtes satisfait?
Très, c'est ce qu'on demande depuis. Bon, les négociations qui étaient en cours étaient de demander au pouvoir public de nous rouvrir aux alentours de 500. On est en dessous des 500. Alors, attention, hein, c'est pour ça que le préfet dit on verra dans une semaine ou deux. C'est parce qu'on est plus de 500 en Île-de-Cayenne. La Guyane est sectorisée, hein, et vous avez bien compris qu'il y a des endroits plus calmes que d'autres.
C'est ça.
Il y a déjà des établissements qui ouvrent actuellement, hein, à Saint-Georges, à Roura, les établissements qui sont en zone verte, parce qu'ils ont très peu d'incidence et beaucoup de vaccinations, et c'est lié, malheureusement, même si certains ne veulent pas l'entendre. Eh bien, ces établissements sont ouverts depuis des semaines. Vous comprenez? Nous, sur l'île de Cayenne, peut-être Saint-Laurent, peut-être Kourou, ils vont voir, là, ils sont en train de faire les calculs pour voir où on en est. Alors, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas uniquement sur un taux d'incidence, hein, que ça se calcule. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi le nombre de lits de réanimation possibles. On en a armé beaucoup. On a reçu de la réserve sanitaire de métropole. Il y a quelque temps, donc on est prêt à recevoir plus de malades en réanimation. Encore une fois, je dis toujours aux gens, faites très attention à cette histoire de lits de réanimation. On parle du manque d'infrastructures hospitalières. Vous savez, en Guyane, il n'y a pas qu'un manque d'infrastructures hospitalières, il y a un manque d'infrastructures routières, il y a un manque de beaucoup de choses. C'est évident qu'on a en Guyane un manque d'infrastructures hospitalières. On n'a pas, contrairement à ce que beaucoup disent, un manque d'infrastructures au niveau de la réanimation. on n'a jamais manqué, à part crise Covid, de places de réanimation en Guyane. Donc, en ce moment, on a armé beaucoup plus de lits de réanimation. C'est intéressant de pouvoir prendre des gens en réanimation. Mais moi, ce que je dis aux gens, attention, n'allez pas en réanimation. Est-ce que vous connaissez les statistiques de la réa? 1 sur 3 meurt en réa. Moi, je vous le dis, c'est pas parce qu'on va avoir 200 lits de réa. Si on a 200 lits de réa, on aura 70 morts. Donc, c'est pas le nombre de lits de réa qui compte, c'est de ne pas aller en réa, et, si on peut, de ne pas aller à l'hôpital. Et ça, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, malgré ce que beaucoup prétendent, il n'y a que le vaccin qui peut nous le garantir. Moi, je ne vois pas trop où est la discussion. Et puis, pour en finir sur ce débat sur la vaccination, le pass sanitaire, etc., ce que je n'arrive pas à comprendre, je vois que ça ne marche pas en Guyane. J'arrive de l'Hexagone, où ça marche très bien. Et en revenant, je me disais, mais pourquoi ça marche quelque part et pas ailleurs? C'est le même vaccin, c'est la même population, parce qu'en Hexagone, beaucoup de gens à qui j'ai parlé sont guyanais, vivant en métropole depuis longtemps, mais enfin, d'origine guyanaise, martiniquaise, guadeloupéenne. Tous mes amis d'Homme-Tom ou Guyane sont vaccinés en métropole. Pourquoi c'est bien pour eux? Pourquoi c'est pas bien pour nous? J'ai pas la réponse. J'aimerais que quelqu'un me la donne.
Je vais juste vous poser la question sur est-ce que vous êtes prêt, en tout cas pour l'application de ce pass sanitaire. Juste, Monsieur Eoch, il a quand même manqué de lits de réanimation à Kourou lors de la première vague.
Oui. Hors vague Covid. Attention, hein. Je parle de hors vague Covid. Aucun médecin de Guyane ne vous dira qu'il a manqué de lits de réanimation pour un patient, même accidenté de la route ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de demandes. Bien sûr que ce serait mieux qu'il y en ait un peu plus, hein. On est d'accord. Mais c'est pas le fond du débat. Je crois qu'aujourd'hui, l'infrastructure hospitalière, alors on peut mener différents combats en même temps, et ce serait intelligent de le faire. D'ailleurs, je crois savoir que ça se fait, puisqu'on est en train de parler du CHU, etc. C'est bien. Mais le vrai combat aujourd'hui, en tous les cas pour moi, président du groupement des restaurateurs guyanais, mon vrai combat, c'est de faire rouvrir nos restaurants.
Voilà. Est-ce que vous êtes prêt justement pour cette réouverture? Et ce sera justement ma dernière question. Quelles sont selon vous les orientations qui favoriseraient votre survie, la survie du tissu économique avec un plus grand T? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que vous auriez souhaité, pourquoi pas, que comme chez notre voisin, on ne pénalise pas vos professions et qu'on fasse plus appel à la responsabilité personnelle et que du coup on laisse les commerces, les restaurateurs ouverts et que vraiment on soit plus concentré sur la responsabilité civile et personnelle, et si les personnes ne trouvent pas de lits de réanimation, si elles ne trouvent pas de quoi se soigner, et bien finalement, comme je le dis, ça appelle à leur propre responsabilité. Donc déjà, êtes-vous prêt et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous auriez souhaité?
Ce qu'on attend, c'est que peut-être en France, on prenne un petit peu de hauteur et on regarde comment ça se passe ailleurs. Par exemple, moi j'avais regardé, hein, pour rester sur les pays européens, des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Hongrie et bien d'autres encore, même en mettant en place le pass sanitaire, ont ajusté, adapté. Certains ont fait en sorte que les terrasses ne soient pas soumises à ces passes sanitaires. D'autres ont mis des jauges en dessous desquelles, parfois 50 personnes, parfois 100 personnes, le pass sanitaire n'était pas obligatoire. La deuxième chose qu'on aimerait que aussi les autorités entendent lorsqu'elles vont nous réouvrir, et on espère que ce sera une réouverture définitive, c'est que si réellement nos fermetures sont liées à la peur que nous transmettions la Covid. On attend toujours d'ailleurs les preuves de l'ARS, hein, que nous sommes vecteurs de ce virus, plus que d'autres endroits. Laissez-nous ouverts quand même. Parce que là, j'ai encore reçu des flyers.
Hein,
plus de stop and go, mais tout simplement, là, pour une raison sanitaire. À chaque fois qu'on est fermé, on l'a dit, et les chiffres, et le pire, c'est que les chiffres d'évolution du virus le montrent. Les gens continuent à sortir. Vous savez, le nombre de soirées le nombre de restaurants et de traiteurs illégaux qui se sont développés.
Et le nombre de soirées clandestines qui pullulent.
Et qui sont avec un nombre de personnes bien supérieur à ce que nos établissements sont capables d'accueillir. Avec, alors là, aucun geste barrière, aucun moyen pour essayer de tracer. Si vraiment c'était une question de vie ou de mort, je pense qu'on serait capable de prendre très vite une loi pour pouvoir intervenir dans ce genre de soirée. Si on nous ferme pour ces raisons-là, alors trouver un moyen de fermer aussi ces endroits-là. Si c'est une véritable, si nous sommes dans une situation de donner assistance à personne en danger. Ouais, donc là, à un moment donné, là-dessus, ouais. C'est pas. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point cela aussi, ça nourrit un sentiment d'injustice? Et il n'y a rien de pire que le sentiment d'injustice.
Surtout quand on a. Ce n'est pas possible pour les autorités.
Alors, le discours officiel, c'est de dire, oh, bah, quand c'est une soirée privée, comme c'est dans un local, voilà.
Privé, la loi ne permet pas de la police d'entrer. Alors,
quand on sait, ces 18 derniers mois, à quel point on a été capable de faire un nombre de lois et de décrets qui ont restreint dans une très large mesure nos libertés, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'à un moment donné, on ne serait pas capable de faire une loi qui puisse, dans cette circonstance, si c'est vraiment une question de vie ou de mort, parce que moi, on m'a dit, on nous ferme parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, à un moment donné, si c'est toujours une question de vie ou de mort, quand on ne respecte pas les gestes sanitaires dans un établissement, c'est non-assistance à personne en danger.
Alors, il y a une petite précision à apporter là-dessus, parce que j'ai posé la question à quelqu'un de haut placé à la gendarmerie qui m'a expliqué que dans ces soirées-là, il y avait cet aspect-là de la loi qui ne permet pas. Donc, comme tu le dis, il pourrait y avoir un article, quelque chose qui fasse que momentanément, on puisse le faire. Mais il y a un autre problème très important, c'est que dans ces soirées, il y a des armes à feu, que la police met en danger sa propre vie et celle des autres. Il y a des femmes, quelquefois des enfants, et qu'ils ne peuvent pas intervenir. Il y a des armes à feu, on le sait, qui ne circulent pas que dans ces soirées-là, mais notamment dans ces soirées-là. Donc c'est assez dangereux. Pas évident.
Vos orientations ? Les orientations que vous auriez aimé que l'on puisse mettre en place, non, rien de particulier.
Simplement parce que si je donne des orientations mais qu'elles ne sont pas entendues, ça ne sert à rien. Donc non, la première chose, c'est
des vœux pieux. On aime faire ça en fin d'émission.
Ouais, le vœu pieux.
J'aime bien dire, je vous donne une baguette magique que.
Non, bien sûr. Non, ce serait qu'on puisse, avec les différents représentants qui sont impactés par ces mesures, qu'on puisse travailler, non pas simplement être entendu, mais travailler avec les autorités. Et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui soit utilisée par amitié préfectorale. À un moment donné, il faut être cohérent. Voilà, on est différents acteurs, on est différents représentants. Si 200 restaurateurs sont venus devant la préfecture pour manifester, c'est qu'il y a bien
un malaise. Je pense pas qu'il y avait 200 restaurateurs, il y avait 220 adhérentes, mais ce n'était pas que des restaurants, il me semble, quand même.
Et des restaurants, il y avait la communauté asiatique aussi qui était là.
En tous les cas, les restaurateurs que je représente ne sont pas d'accord avec cette façon de faire, avec cette façon de penser, sont prêts à rouvrir avec passe sanitaire, leur personnel est vacciné, tout le monde est prêt. On n'attend plus que le feu vert du préfet, on sait que c'est une question de semaine, je pense qu'au plus tard, 2-3 semaines, on devrait être ouvert, peut-être avant si on a un petit peu de chance. Et faut le dire, ceux qui ne veulent pas rouvrir, n'ouvrent pas, c'est pas un problème. Il y a une réglementation, il y a une loi qui est applicable. Mais il y a des gens qui suivent la loi, puis d'autres qui ne veulent pas. On est en République, en démocratie, les gens font ce qu'ils veulent. Ceux qui ne veulent pas ouvrir, qui ne veulent pas appliquer le pass sanitaire ou qui ne sont pas prêts, j'étais entendu dire qu'il y en avait qui n'avaient pas, leurs employés n'étaient pas prêts, etc. On sait, depuis, ça fait des mois, c'est pas d'hier. Donc ça fait des mois que moi je me suis préparé à ça, mes employés sont vaccinés et chez tous mes collègues qui sont prêts à rouvrir, c'est parce que leurs employés sont prêts à rouvrir. On n'en peut plus de rester sans rien faire. Les aides, comme vous l'avez bien compris, ne sont pas suffisantes. Elles nous permettent de tenir la tête hors de l'eau. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que vous savez, il faut quand même pas perdre de vue qu'à ce niveau-là, le job a été fait. Il y a eu 37 fermetures de restaurants en 2020 et 35 ouvertures de restaurants. Donc une compensation, on est sur quelque chose qui tient la route. Hein, les aides ont permis. Alors, c'est pas pour ça que dans quelques mois ou quelques années, il n'y a pas des restaurants qui vont avoir accumulé trop de déficits ou trop de dettes, qui vont être obligés de fermer, parce qu'il y a aussi les aides sous forme de prêts qu'on a obtenus au tout début. Quand il va falloir commencer à les rembourser, là, ça va être la catastrophe. On fera une autre émission pour ça.
Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et pour votre expertise fine, hein, puisqu'on est dans le domaine. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous retrouver très prochainement, j'espère d'ici la semaine prochaine ou deux semaines, pour ces moments de plaisir, puisque c'est ce dont on a parlé, pour reprendre vos termes que vous nous offrez. Vous pouvez vous retrouver sur les réseaux et revoir en live le Facebook et les liens sur les réseaux. Rendez-vous même lieu, même heure la semaine prochaine.
Merci.
Merci.